Europe 1.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte aujourd'hui un épisode clé de la vie politique contemporaine. La tentative de Dominique de Villepin en 2006 de faire adopter le CPE, le contrat première embauche, qui prévoyait que les jeunes de moins de 26 ans pouvaient être virés à n'importe quel moment, pendant les deux premières années de leur contrat et sans motif. Ce qu'à l'époque on appelle un contrat Kleenex. Je prends, je jette.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Dans cette histoire, vous allez retrouver une affaire qui fait encore débat aujourd'hui. La flexibilité du travail. On y va ou on n'y va pas ? On assouplit les règles comme l'exige le système et comme l'ont fait bon nombre de nos voisins ? Ou bien on résiste ? On fait le dos rond, façon dernier village gaulois ? On sauve notre modèle social ? Et au passage, on s'endette un peu plus. Eh oui, c'est le prix du dos rond. Alors voyons comment on a répondu à la question en 2006. On est en janvier 2006. Jacques Chirac est président de la République dans sa dernière ligne droite. Et Dominique de Villepin est son premier ministre depuis 6 mois et demi seulement. Le premier serait tenté de ronronner, forcément. Il arrive au bout de 12 années de présidence. Le second, en revanche, est fringant et plein d'ambition. Les présidentielles sont dans 1 an et demi. Il a 1 an et demi pour marquer les esprits. Le 16 janvier, Villepin débarque à l'Élysée. Il a un projet, un gros projet. Une loi qu'il veut appeler la loi sur l'égalité des chances. Il veut en finir avec le chômage des jeunes qui touche 22% des 15-24 ans. Et il explique son projet à Chirac. Et l'autre, en vieux matou de la politique, lui dit « Le chômage des jeunes, ça c'est casse-gueule. » « Bonne intuition, monsieur le président. » C'est casse-gueule, en effet. Et maintenant, laissez-moi vous présenter les autres protagonistes de cette histoire. Les membres du syndicat étudiant UNEF et leur tout nouveau président, Bruno Julliard. Pile au moment où Villepin entre à l'Élysée, eux, ils sont en bureau national dans le 19e arrondissement de Paris. Bruno Julliard est aujourd'hui le premier adjoint d'Anne Hidalgo à Paris, mais c'est là qu'il apparaît, à ce moment-là. Avec sa tête de premier de la classe, bien propre sur lui, pas grande gueule, calme, réservé. C'est pas Danny Cohn-Bendit, quoi, ni de près ni de loin. Et Bruno Julliard, il sait que quelque chose se trame. Quoi, ça, il ne le sait pas, mais Matignon a fait passer le message, le Premier ministre est sur le point de faire une annonce.
Nous avons besoin d'un contrat de travail mieux adapté à la situation des jeunes est capable de leur offrir un accès plus rapide et plus sûr à un emploi stable. J'ai donc voulu créer une voie d'accès directe au contrat à durée indéterminée, le contrat première embauche.
Quand il entend le Premier ministre, Bruno Julliard ne comprend pas d'entrée le piège. Une voie d'accès direct au CDI qui s'appellera contrat de première embauche. Mais encore. Alors il creuse. Il se rencarde, il épluche tous les articles qui résument le plan du Premier ministre. Il met tout bout à bout, ça lui prend 3-4 heures. Et au bout, il a compris. Le contrat première embauche est un contrat low cost qui s'appliquera au moins de 26 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il assouplit les conditions d'embauche des jeunes. Ça, pour assouplir, il assouplit. Plus souple, il n'y a pas. Pendant 2 ans, vous entendez, 2 ans, le jeune peut être viré à n'importe quel moment et sans motif. D'après vous, Bruno Julliard, le président du syndicat étudiant UNEF, il aime le CPE ? Il n'aime pas du tout. Il trouve ça fou et dangereux. Et surtout, il pense que ça ne passera pas. On sort des émeutes en banlieue, il y a une fracture avec la jeunesse. Ça va chauffer. Il le pressent. Et lui, il est prêt à craquer l'allumette. Il appelle la CGT, la CFDT et Force Ouvrière. Il veut prendre la température.
On ne parlait pas encore vraiment de mobilisation, mais tout de même, dans la soirée, nous avons commencé à échanger avec les syndicats sur la perspective d'une réunion d'échanges et de partage de points de vue dans les jours qui suivaient.
Une semaine plus tard, le 24 janvier, a lieu une réunion de tous les syndicats. Et Bruno Julliard, qui est un néophyte, il est président depuis 6 mois seulement, découvre les joies du syndicalisme. Il s'entend dire...
Ah ben, on a déjà annoncé une journée de mobilisation. On va pas commencer à tout mélanger, hein ? Vous devez d'abord vous mobiliser, hein ? Vous, les étudiants !
Il en sort un peu refroidi. Manifestement, dans le syndicalisme, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes, les ouvriers avec les étudiants. La seule chose qu'il décroche, de la part des syndicats, c'est une aide logistique. Camions, sonos, banderoles, ça, pas de problème. Mais pour le reste, démerdez-vous ! La date d'une première manif est fixée, ce sera le 7 février. Et Julliard et ses amis se retrouvent seuls à la manœuvre.
Nous, on savait que c'était d'abord notre travail à nous de mobiliser la jeunesse. Ça a pris longtemps, tout le mois de février, avant que vraiment on arrive à construire un mouvement de mobilisation et de grève dans les universités.
À l'Assemblée nationale, les socialistes sont vent debout. Et qui retrouve-t-on en première ligne ? Le député de la Corrèze et patron du PS, François Hollande, bien sûr.
Ça sera le contrat qui pourra être interrompu par l'employeur à tout moment, pour tout motif et sans aucun recours. C'est le contrat révocable à chaque instant. C'est la précarité organisée.
À Matignon, Villepin commence à comprendre pourquoi Chirac lui a dit « Ton truc, c'est casse-gueule ». Et là, il prend une décision qui va mettre le feu aux poudres. Et c'est lui hein, qui le met, le feu, lui-même. Il avance le débat parlementaire sur sa loi, de 15 jours. Il devait avoir lieu mi-février, il commencera le 31 janvier. Il veut doubler les manifestants et il ne va faire que les énerver.
La précarité, c'est pour ces jeunes la crainte d'être licenciés à tout moment, la peur de devenir des salariés Kleenex, des salariés jetables. Avec le CPE, ils redoutent aussi de ne pas pouvoir construire leur avenir.
Parce qu'on ne peut pas s'installer dans la vie, parce qu'on ne peut pas prendre un logement, parce qu'on ne peut pas avoir de crédit, parce qu'on ne peut pas fonder une famille, parce qu'on ne peut pas faire de projet d'avenir.
Cette première manif étudiante du 7 février 2006, honnêtement, c'est pas un grand succès. 400 000 manifestants selon les syndicats, 218 000 selon la police. Mais le lendemain, l'université de Rennes 2 se met en grève. Ah les Bretons, jamais les derniers, hein ? Et derrière, ça embraye. Campus après campus, le blocage des universités françaises est en marche. Le souci, ce sont les vacances de février qui arrivent. Et en plus, pas à la même date dans toutes les facs, c'est pas terrible ça. Pour la mobilisation, les vacances. Alors Bruno Julliard et ses amis ont une idée.
On avait appelé ça la OLA des grèves et des manifestations, des assemblées générales, c'est-à-dire que les universités transmettaient le flambeau, celles qui commençaient leurs vacances, transmettaient le flambeau à celles qui venaient de les terminer. Et finalement, il y a eu des mouvements de grève et des manifestations pendant tout le mois de février, malgré les vacances.
À l'Assemblée nationale, Dominique de Villepin dit qu'il n'a pas peur de la rue. Qu'il ne reculera pas.
J'écoute ceux qui manifestent, mais j'écoute aussi ceux qui ne manifestent pas.
Le 9 février, à 2h35 du matin, l'article 8 de la loi, celui qui crée le contrat première embauche, est adopté. Vite fait, bien fait. La gauche est furax. Elle parle d'un débat escamoté et elle se lance dans une obstruction systématique dans l'examen des autres articles de la loi.
Malgré l'adoption dans la nuit de l'amendement créant le contrat première embauche, l'opposition n'a pas pour autant laissé filer le reste du débat sur la loi d'égalité des chances.
Un peu de dignité.
Résultat, à midi, après suspension et rappel au règlement multiple, pas un seul amendement n'avait été examiné.
On prévient Dominique de Villepin. Ça va être compliqué. La droite ne peut plus lui garantir le nombre de députés suffisant. Bien. Que faire ? Là, il y a deux solutions. Soit il retire sa loi, mais c'est hors de question. Soit il la recourt au fameux 49-3. Le 9 février à 16h30, Dominique de Villepin entre dans l'hémicycle. L'air grave.
Notre pays s'impatiente. Il attend des réponses. Et vous pouvez brandir tous les cartons rouges que vous voulez. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un stade. J'ai l'honneur d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote de l'ensemble du projet de loi pour l'égalité des chances.
Le Premier ministre a décidé de passer en force. Il n'y aura pas de débat du tout, pas de blabla. Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à voter la motion de censure, et puis voilà, il ne risque rien. Il a la majorité, plié le CPE. Il n'y a qu'un détail qu'il néglige. Il a peut-être la majorité des députés avec lui, mais la rue, il l'a contre lui. Sauf si le mouvement s'étiole avec les vacances de février. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Avec le 49-3, Villepin force la main à sa majorité. Il l'oblige à soutenir son CPE, alors qu'entre nous, elle est tiédasse. Mais ça passe. La motion de censure déposée par François Hollande est soumise au vote des députés le 21 février. Elle est rejetée. La loi pour l'égalité des chances est adoptée sans débat. Et dans la foulée, elle est votée au Sénat. Donc, sur le papier, c'est plié, plié, plié. Il ne reste plus qu'à la promulguer, qu'à la publier au journal officiel. Et c'est fini. Fini ? Ah bon ? Le 7 mars, nouvelle journée de manifestation. Et cette fois-ci, la mobilisation est solide. Entre 400 000 et 1 million de personnes dans la rue. Et le lendemain, un sondage montre que 55% des Français souhaitent le retrait du CPE. Et c'est là qu'entre en scène Nicolas Sarkozy. Il est alors le ministre de l'Intérieur de Dominique de Villepin. Sauf que lui, quand il se rase le matin, il ne pense qu'à une chose, sa candidature à la présidentielle dans un an. Alors Villepin, qu'il déteste, son CPE, son entêtement, c'est pas le moment. Il le dit d'ailleurs à Bruno Julliard quand il le voit.
Une fois, lorsque nous avions eu une discussion sur la sécurité des manifestations, Nicolas Sarkozy en avait profité pour me glisser que lui-même, d'un point de vue politique, et ça n'était pas public à ce moment-là, mais que d'un point de vue politique, il considérait que le gouvernement devait reculer et retirer le CPE.
Bruno Julliard, le président de l'UNEF, commence à devenir un personnage médiatique. Et pourtant, c'était pas gagné, hein. Le charisme d'un bulot, un manque d'expérience visible, il n'aime pas la télé, ça se voit, il a peur des journalistes. On sait maintenant qu'à l'époque, la CGT lui donne une formation, un coaching en accéléré. Un soir, après un énième débat à la télé, il reçoit un coup de fil du maire de Paris, Bertrand Delanoë.
Bruno, c'est très bien ton intervention, hein. Mais bon, t'as pas bonne mine. Tu devrais manger et dormir un peu.
Oui, vous avez raison, Bertrand. Au moins, c'est un coup de fil désintéressé. Ce qui n'est pas toujours le cas à gauche, où ça commence à sentir sec la récup. Bruno n'est pas prêt d'oublier, par exemple, sa rencontre avec Ségolène Royal, en route elle aussi pour la présidentielle de l'année prochaine.
Hollande nous avait reçus, ça s'était très bien passé. Et puis quand je sors de l'Assemblée, il y avait une personne qui m'attendait avec plein de caméras en haut des escaliers. Et c'était Ségolène Royal, juste avant les élections, donc et sa campagne de primaire et les élections présidentielles de 2007. Ségolène Royal qui avait tout organisé pour qu'il y ait plein d'images et plein de photos avec nous.
Eh oui, le jeune Bruno Julliard découvre les joies du jeu politique. Le 12 mars. Dominique de Villepin est aux 20h de TF1. Têtu comme une mule, il dit qu'il ne changera pas de cap. Mais pour la première fois, il entr'ouvre une porte, il met un peu d'eau dans son vin. Il est d'accord pour négocier avec les syndicats des garanties. Mais retirer son texte, ah ça non. Deux jours plus tard, il reçoit un soutien appuyé du président en déplacement à Berlin.
Il va de soi que je soutiens totalement et sans réserve, l'action conduite par le Premier ministre et par le gouvernement français, notamment en ce qui concerne ce problème si délicat auquel tous les gouvernements européens sont confrontés, et qui est celui de l'intégration des jeunes, de l'emploi des jeunes. Et dans ce domaine, il est vrai que le contrat première embauche est un élément important de cette politique.
le président Chirac, en professionnel, fait le job. Mais il sait déjà que l'affaire est perdue. Car dans les facs en grève, ça chauffe. Le 23 mars, une manifestation dégénère aux Invalides, en plein cœur du Paris bourgeois. Coup de poing, coup de casque, ça sent le roussi. Le 27 mars, Nicolas Sarkozy, en meeting à Douai, dans le Nord, plante un poignard dans le dos à son ami de Villepin. Au cas où l'autre songerait à lui barrer la route de la présidentielle. Et il y songe, bien sûr. Il ne songe même qu'à ça.
Il me semble utile qu'avant toute initiative d'application, on prenne le temps que la négociation aboutisse. Si ces règles étaient mises en œuvre, nous ferions l'économie des oppositions stériles sur le CPE. Je crois que l'on peut être ferme sans être rigide. Je crois que l'on peut être à l'écoute sans abdiquer ses convictions. Je crois que l'on peut être conciliant sans être faible. Et je crois que l'on peut être parfaitement solidaire du gouvernement et faire entendre loyalement ses solutions pour sortir d'une crise qui n'apporte rien de bon à la France, à son économie et à notre croissance.
Sarko vient d'humilier publiquement le Premier ministre. À un moment particulier, une cinquantaine d'universités sont maintenant complètement bloquées. Et une nouvelle manif le 28 mars rassemble plus d'un million de personnes, 3 millions, disent même les syndicats. Et maintenant, c'est au président Chirac de trancher. Il a le choix entre promulguer la loi, que son gouvernement vient de faire voter, ou ne pas la promulguer et donc l'enterrer. Une nouvelle manif est déjà prévue pour le 4 avril. Le 31 mars, le président de la République fait connaître sa décision dans une allocution télévisée. Pour sauver la face, il va la promulguer, la loi. Mais, parce qu'il y a un mais, il demande des modifications. Et quelles modifications ? Il veut revenir sur la durée de la période d'essai de 2 ans et sur le licenciement sans motif. Autrement dit, il vide le CPE de sa substance explosive et il lâche son Premier ministre.
Je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'en pratique, aucun contrat ne puisse être signé sans intégrer pleinement l'ensemble de ces modifications.
Bruno Julliard réagit en direct aux 20h.
Je vois une grande contradiction entre imposer la loi en promulguant et puis expliquer en même temps on va ouvrir des négociations pour l'amender. Je trouve assez grotesque d'ailleurs qu'on promulgue pour demander finalement de ne pas appliquer.
4 jours plus tard, nouvelle manifestation. 1 million de personnes dans la rue selon la police, 3 millions selon les syndicats. Pendant ce temps-là, le Premier ministre vient de se faire tordre le bras par Chirac et il cherche une porte de sortie. Avec Jean-Louis Borloo, le ministre de l'Emploi, et Gérard Larcher, son ministre délégué, il élabore un plan de remplacement qu'il veut présenter au président le lendemain, mais ce sera pour la forme. Le 9 avril, Julliard est avec ses camarades en réunion et il reçoit un coup de fil de Jean-Louis Borloo.
Bonsoir Bruno, c'est Jean-Louis Borloo. Voilà, c'était pour vous dire que demain, le gouvernement va annoncer le retrait du CPE. Bonne soirée, Bruno.
Par superstition, Julliard ne le dit pas aux autres. Comme saint Thomas, il attend de le voir pour y croire. Et le lendemain...
Les conditions nécessaires de confiance et de sérénité ne sont réunies ni du côté des jeunes, ni du côté des entreprises pour permettre l'application du contrat première embauche. J'ai proposé au président de la République, qui l'a accepté, le remplacement de l'article 8 de la loi sur l'égalité des chances par des mesures en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes les plus en difficulté. J'ai voulu proposer une solution forte. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette.
Et voilà. Le CPE est mort. Le prix de l'aventure, c'est 3 mois de paralysie du pays. La flexibilisation du contrat de travail est donc remise à plus tard.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.